Au ras des pâquerettes, l'émission qui prend de la hauteur en Auvergne-Rhône-Alpes.
Une balade dans notre région à travers des sons, des voix et des rencontres.
Une émission proposée par les radios d'Aura FM à la découverte des initiatives locales et des acteurs du territoire.
Au ras des pâquerettes.
Bonjour à vous et bienvenue dans ce nouveau programme Aura des pâquerettes, ce rendez-vous mensuel proposé par nos radios réunies au sein de notre fédération régionale Aura FM, un programme mutualisé en guise d'invitation à découvrir les initiatives locales de chacun de nos territoires. En terre ligérienne, mais pas seulement. Pour ce numéro de février 2024, en compagnie de Radio Dio, radio basée à Saint-Étienne, qui, à trois voix, va vous plonger dans l'univers musical de l'artiste Tashka, en immersion dans le collage féministe stéphanois et prendre un peu de hauteur avec le soulèvement écologique appelé par Camille Etienne, symbole de la génération climat. Bienvenue dans Aura des pâquerettes. Alors que vient de se boucler la COP28, toujours d'actualité, en 2024, Camille Etienne, militante écologiste, défend la position suivante. Pour un soulèvement écologique, dépasser notre impuissance collective. C'est le titre également de son premier ouvrage, Livres et démarches, présenté à notre micro lors d'un entretien réalisé lors du dernier rendez-vous de la transition écologique, Tatou Juste à Saint-Étienne. Nous sommes en direct du rendez-vous de la transition écologique, Tatou Juste, rendez-vous ici sur le Parc Expo Hall B où nous sommes situés pour nos radios associatives locales et de proximité en direct également jusqu'à ce soir 19h pour ces deux jours de marathon radiophonique. Et on poursuit nos rendez-vous avec une nouvelle invitée au plateau ici en ce début d'après-midi. On retrouve Camille Etienne, bonjour.
Bonjour.
Et bienvenue sur nos stations et ici sur cet espace radio et sur ce rendez-vous de la transition écologique pour discuter autour de cet ouvrage « Pour un soulèvement écologique dépasser notre impuissance collective ». C'est ton premier livre.
Absolument.
Après quelques autres expériences artistiques, notamment, alors moi je t'ai découvert ainsi, avec cette vidéo qui a largement circulé, qui était très popularisée il y a 3 ans de cela.
Ouais.
On était dans un autre monde, une autre période, celle de la pandémie. C'était « Réveillons-nous » avec le collectif « Avant l'orage », une vidéo qui a eu un succès international, on peut le dire. 15 millions de vues, toutes plateformes confondues, traduites dans toutes les langues ou presque. Espagnol, anglais, allemand, portugais. 4 autres vidéos depuis, puis ce premier livre. Alors juste, ce que je me souviens de cette vidéo, qui en 10 minutes, comme ça, avait l'intention de poser les constats et de proposer les solutions en dansant. Je me dis, 3 ans plus tard, parce qu'il y avait cette idée aussi d'un sursaut finalement, le monde s'arrêtait. Alors tout à l'heure, on évoquait l'an 01 de GB Doyon. Ça me renvoie aussi un peu à cette question qui était, on arrête, la course est freinée non-stop. On se pose, on réfléchit et on envisage la suite avec l'intention aussi d'entamer et d'engager un virage. Je dirais 3 ans après. Quelle appréciation tu as de la chose ?
Non, moi je pense qu'on est beaucoup à s'être rendu à avoir eu la naïveté, mais qui était jolie, je trouve, et qui a créé beaucoup de se dire que ce moment du fameux monde d'après, qu'il allait advenir de lui-même, et que quelque part, c'était l'étape logique, que c'était impossible qu'on oublie. Sauf que malheureusement, on se rend compte que on s'habitue à l'horreur. L'humain s'habitue à tout. On a des. On s'habitue aux guerres, on s'habitue aux atrocités, et particulièrement dans un monde de surinformation, de surdivertissement, on oublie très vite et on a une capacité à s'accommoder avec ce qui est pour autant impensable. Donc on a vu qu'une fois qu'on est revenu du Covid, la priorité a été donnée aussi par nos décideurs à remettre l'économie en ordre de bataille, à rattraper toutes les émissions de CO2 qu'on n'avait pas pu émettre pendant ce temps. Et donc voilà, on est tous tombés un peu en gueule de bois de cette fameuse... de ce fameux monde d'après qui n'était pas là. Et ce que j'ai trouvé par contre intéressant, c'est de réaliser que c'est de faire le deuil de ce grand soir en disant il ne va pas se passer ce grand moment, ce grand sursaut. En fait, il est déjà là partout, là où on pose notre regard avec un peu plus de justesse. Et donc on s'est rendu compte que il y avait déjà plein d'autres manières de faire l'agriculture, plein d'autres gens qui s'organisaient autrement, qui vivaient différemment leur territoire, etc., etc. Donc pour moi, je dirais 3 ans après, c'est plutôt l'idée de se dire oui, ça existe, ça s'est passé, mais c'est déjà passé partout et ça se passe sous nos yeux là maintenant. Il suffit d'aller chercher ces endroits-là et d'aller se battre pour eux, pour que ça, qu'ils adviennent aussi à une échelle un peu plus structurelle.
Au-delà du constat général, j'ai envie de poser la question presque plus personnelle, mais sans indiscrétion, enfin je vais tenter, parce qu'à cette époque-là, tu réalises un master d'économie et Sciences Po à Paris, et tu décides justement de faire une pause, d'arrêter une année de césure pour t'atteler à ce travail d'information, de sensibilisation, de militantisme même. Je dirais aujourd'hui, 3 ans après justement, quel est un petit peu ton projet aussi, peut-être plus personnel, voire professionnel ?
Bah de retourner faire des études, c'est fou, mais ça me manque. Non, j'ai fait une année de pause, après j'ai repris mon master, je l'ai fini. C'était intense, on va dire. C'était pas ce que j'aimais. J'ai toujours été fascinée des études et très curieuse de tout ça, des sciences sociales. Et en fait, je trouve que justement, on n'a pas une approche assez proche des sciences sociales. Du problème, on voit ça comme un tableau Excel où il s'agirait de décarboner nos vies. Et donc, il faudrait juste tout faire pareil, mais en décarboné, en neutre, alors qu'on ne pose jamais la question de la finalité. Et c'est ça, les sciences sociales, la sociologie, l'histoire, la philo, que j'adore. C'est l'idée de dire, bah, très bien, on a de l'énergie propre, mais pourquoi ? Pourquoi elle va servir à quoi, cette énergie ? Et c'est Aurélien Barraud qui dit, bah, si on a un bulldozer qui va arracher tous nos vergers, mais qui fonctionne à énergie verte, est-ce que c'est vraiment mieux ? Si on a une arme, mais qui est faite de manière recyclable, est-ce que vraiment c'est quelque chose de souhaitable ? Et donc, je crois qu'on manque vraiment de sciences sociales qui arrivent à avoir ce regard sur la question écologique. Et donc, j'ai encore envie d'apprendre plein de choses, d'aller regarder dans les philosophes, d'aller regarder dans l'histoire, tout ça. Et j'aimerais bien repartir l'année prochaine. Mais je fais comme, vous savez, quand il faut dire quelque chose pour que, après, comme ça, si on oublie et qu'on essaie de. Les gens nous disent alors, où est-ce que tu en es de ce master que tu veux faire à Oxford ? Donc je m'auto-piège là. Donc je suis en train de candidater à tout moment, je ne vais juste jamais être prise, ce serait ridicule. Mais j'aimerais bien reprendre un an un peu loin de tout ça aussi pour avoir le temps long de la réflexion, en fait, qu'on n'a pas quand on est dans l'urgence de l'action.
Le temps de la réflexion, le temps de la maturation ou de la maturité aussi quelque part. On évoquait ce matin en table ronde les low-tech, yeah, la façon de s'outiller aussi pour s'armer finalement, pour faire tourner le monde autrement. Tu évoques les sciences humaines et sociales, c'est aussi un outil intellectuel important.
Totalement.
Pour aussi la compréhension du monde, mais pouvoir aussi interférer, agir également sur le monde.
Bien sûr, en fait, de regarder aussi comment ça s'organise. C'est pour ça que j'ai étudié l'économie alors que c'était pas du tout ce qui m'intéressait à l'origine. C'était de se dire comment est-ce qu'ils fonctionnent, ceux qui prennent la décision sans nous et pour nous. Donc si on n'est pas capable de comprendre leur langage, si ce n'est de le parler, de le comprendre, je crois que c'est important aussi parfois d'avoir accès à ça et de se dire, ok, je vais, là c'est parce qu'on travaille sur les fonds marins par exemple, ben, on s'est tapé toute la lecture de la Convention de la mer où je ne comprenais rien, mais en fait quand on fait l'effort d'aller dans le texte et de voir et de se confronter vraiment à concrètement ce qui se passe, quels sont les plafonds de verre, où sont les verrous, ben c'est plus facile de les faire sauter avec pertinence par ailleurs.
L'outil intellectuel ou l'outil artistique, comment tu le mesures toi aujourd'hui, parce que ça passe par différents canaux, tu as réalisé une vidéo, tu réalises des conférences, tu publies un ouvrage aujourd'hui, comment tu apprécies l'impact aussi de cette démarche-là, parce que tu es dans une position quelque part de rapport de force et de contre-pouvoir, tu as fait le choix aussi de la médiatisation pour informer, sensibiliser. Comment tu l'apprécies 3 ans après cet exercice-là qui est loin d'être des plus évidents ?
Je pense que je ne me pose jamais cette question de l'impact, parce que justement pour moi, je ne vois pas ça comme, encore une fois, comme on pourrait avoir dans une entreprise où on a un bilan comptable à la fin et il faut que ça marche et on dit bah, telle action a eu telle conséquence, parce qu'on est dans un monde justement social, c'est-à-dire qu'à chaque fois que je fais quelque chose qui a l'air individuel, bah, c'est que je fais un choix ou que je fais un non-choix, ça impacte le monde. De manière infinitésimale, ça va amener le monde dans une autre direction. Par exemple, quand je décide de boycotter, on peut se dire que c'est un geste éminemment individuel, voilà, et en plus c'est un non-geste, c'est juste un non-achat. En fait, de manière coordonnée, ce que ça peut créer collectivement, c'est dingue. Donc, c'est ce qui m'intéresse, c'est de brouiller un peu ces pistes-là. Et donc, quand on est de cette perspective-là, on se rend compte que c'est pas qu'est-ce qui a marché. On fait pas les choses forcément toujours parce qu'elles marchent ou parce qu'elles vont marcher, mais parce qu'elles sont justes. Donc, quand on se positionne du côté de ce qui nous semble juste, du côté de ce qui est droit, du côté de ce qui est moral, du côté de d'être digne, en fait, juste de la dignité, c'est vraiment le mot. C'est de donner un peu plus de dignité à notre espèce. Donc quelque part, je me dis jamais, tiens, est-ce que ce que je fais a de l'impact ? Alors oui, Il y a des gens qui viennent nous dire grâce à tel livre, telle phrase, tel machin, j'ai changé de job, maintenant je suis devenu agriculteur. Et en fait, là, ça fait du bien à l'ego, mais tu sais que c'est pas vrai parce que c'est juste que t'as été le dernier moment de tout un chapiteau et que tu as été le dernier pion qui a créé la bascule. Mais par ailleurs, à l'inverse, ceux qui sont très réfractaires à un moment donné et tu te dis là, ça n'a servi à rien, et ben peut-être que, là, par exemple, très concrètement, on se bat sur une autoroute entre Toulouse et Castres. Bah, peut-être que cette autoroute va avoir lieu, mais n'empêche que, donc on pourrait dire que ça n'a pas marché, mais peut-être que c'est parce qu'on est au début du chapiteau que les prochaines autoroutes, avant d'y aller, ils vont quand même réfléchir à deux fois quand ils voient le bazar que c'est, quand ils voient le nombre d'argent que ça coûte, de retard de travaux, de machin, de gestion de gens qui bouffent plus en France pendant un mois. Enfin, bon, ils vont un peu se dire, ok. Donc c'est pour ça que je crois qu'il ne faut pas du tout se positionner de ce côté de, justement, un peu mathématique, très des sciences dures, seulement de, ça a un impact, est-ce que ça marche là tout de suite maintenant? Bien sûr que c'est important, mais les choses importantes prennent parfois du temps, et donc peut-être qu'on est juste en train de positionner les jalons de ce qui se passe après.
Oui, mais il y a quand même cette intention et cet objectif-là. On veut infléchir aussi sur les décisions. Bien sûr. Il y a aussi déjà de répandre, sans coloniser les esprits, mais en tout cas faire en sorte que ça se sache, que l'on connaisse, que l'on comprenne. Et donc tu interviens tout de même à ce niveau-là. La médiatisation, elle est là aussi quelque part. Pour tenter d'être présent et d'alerter, mais d'agir, ce que tu fais déjà, désobéissance civile était ton intervention là en octobre sur la 69 pour exemple, mais sur d'autres actions encore passées, tu as porté plainte également par exemple même au niveau politique auprès de l'instance, l'autorité politique même représentée ou représentante, ce qui n'a pas fonctionné d'ailleurs.
Pas du tout, mais on continue, on essaye, c'est pas grave, l'idée c'est... Il y a le droit, c'est un peu, on sait jamais vraiment comment ça va finir. Et puis parfois, ça nous échappe et il y a des super belles décisions qui sont prises. Et on le voit, en fait, là, que ce soit la non-dissolution des soulèvements de la Terre, ça a été prononcé par le Conseil d'État, que ce soit, il y a 15 mégabassines qui ont été invalidées. Il y a des luttes locales où, en fait, depuis des années, des habitants se battent. Et en fait, c'est à un moment donné, la justice dit, là, il y avait, en Alsace, il y avait les stockamines qui étaient des stocks de des tonnes et des tonnes de substances chimiques qui étaient stockées, qui devaient être enfouies juste à côté d'une nappe phréatique, avec un risque très élevé de toxicité, bien sûr. C'est la justice qui a dit, c'est le tribunal qui a dit, oulala, attendez, pause là, c'est quoi, qu'est-ce que fait l'État là, n'importe quoi, on arrête. Il n'avait évidemment pas dit comme ça, mais. Donc, ce que je trouve aussi, c'est que parfois le droit, nous, on sait, il y a plein de fois où on n'a juste même pas été reçu, c'est jugé irrecevable comme plainte, mais même le processus de porter plainte est utile. Si on a porté plainte pour un traité qui protégeait les énergies fossiles, et on n'a même pas au tribunal des droits de l'homme, européen des droits de l'homme, et en fait, on n'a même pas encore le jugement, mais juste le fait que 6 jeunes victimes du dérèglement climatique portent plainte contre ce traité, ça fait qu'on a beaucoup entendu parler de ce traité, qui est un scandale, et que du coup, c'était plus tenable pour eux politiquement de le soutenir, et donc la France s'est désolidarisée, on a une grande partie des pays européens qui font plus partie de ce traité, entre autres parce qu'il y a une décision de justice qui a été enclenchée, même si elle n'a pas forcément abouti. Donc le droit peut être un super outil aussi.
Et un bon levier d'action, justement. Comment tu as abordé cet ouvrage, justement, pour le présenter quand même, parce qu'il s'intitule « Pour un soulèvement écologique, dépasser notre impuissance collective », donc ça renvoie déjà à beaucoup de choses, dont celle que tu as évoquée à l'instant, soulèvement écologique, certes, soulèvement de la Terre, enfin voilà, il y a... Comment tu as finalement aussi abordé aussi et appréhendé ce livre et son contenu, ce que tu voulais en partager?
Alors malheureusement, c'était pas un clin d'œil au soulèvement parce que ça n'existait pas encore à l'époque où j'écris ce titre. Mais quand j'étais en train de faire ma conclusion, ça venait d'être créé, donc j'ai pu dire quelques mots quand même en conclusion. C'était par rapport à la Boétie qui disait « Ils ne sont grands que parce que nous sommes à genoux ». Donc c'était l'idée de se soulever, de se lever pour reprendre une forme de puissance. C'est un livre que j'ai voulu être l'idée de prendre du temps pour en gagner. Donc je me suis dit, je veux que ce soit un outil pour les gens qui soient au courant ou pas encore au courant, peu importe, mais qui ont besoin d'avoir cette sensation que moi, certains penseurs ou penseuses créent chez moi, qui est de dire, ah oui, voilà, je sens ça, mais je savais pas vraiment comment le dire, j'avais pas trouvé les mots dessus, c'est exactement ce que je veux dire. Maintenant, je sais que quand je vais pouvoir aller en parler à quelqu'un d'autre, c'était ça mon idée. C'est vraiment comme ça, mettre des mots, en fait, sur des mots MOX, quoi. Donc, ce sentiment d'impuissance, il est hyper présent. Et je vois partout autour de moi des gens qui ont juste l'impression que la chose publique nous échappe. Et que les décisions, encore une fois, sont prises sur nous alors qu'on en est les premières victimes. Donc là, je voulais montrer comment cette impuissance, elle était aussi orchestrée, comment elle arrangeait beaucoup, et comment est-ce que donc il fallait qu'on la refuse. Et refuser cette impuissance, c'est-à-dire refuser un cynisme quelque part, refuser l'idée de dire bah voilà, de toute manière, on va faire quoi là, parce que il décide n'importe quoi. Donc de dire non, on doit peser sur. Alors c'est pas évident, hein, on doit peser sur ce qui se passe, et il y a plein de moyens de le faire.
Pour un soulèvement écologique, dépasser notre impuissance collective, c'est paru aux éditions du Seuil. On va, je crois, terminer cet entretien ici parce que tu dois rejoindre l'espace conférence pour développer davantage précisément le contenu et les axes forts précisément de cette démarche et de cet ouvrage. Merci Camille.
Merci à vous.
Et bonne continuation.
Et bonne radio.
Merci. C'était Camille Etienne, militante écologiste, dont on rappelle l'ouvrage « Pour un soulèvement écologique, dépasser notre impuissance collective » paru aux éditions du Seuil. Et en toute transition d'un salon à l'autre, après t'as tout juste au Parc Expo à Saint-Étienne où a été réalisé cet entretien, eh bien un autre salon qui se déroulera du 1er au 3 mars prochain à Eurexpo à Lyon. Les chemins de l'alimentation sera le thème de la 38e édition du Salon Prime Vert, partenaire de notre fédération Aura FM, qui proposera comme habitude un plateau radio sur site et dont vous pourrez suivre prochainement de beaux débats et de belles rencontres sur nos ondes. Plus d'informations, salonprimevert.org.
Aura des pâquerettes, l'émission qui prend de la hauteur.
Vous êtes toujours dans ce numéro Aura des pâquerettes de ce mois de février 2024. Deuxième proposition avec ce petit documentaire reportage sur le collectif de collage féministe stéphanois réalisé et produit par Marie durant sa période de stage au sein de notre station il y a quelques semaines.
Je fais une deuxième ligne là.
On justice nulle part.
Il n'y a personne.
Si.
Attends, je vais sur la deuxième ligne.
J'ai même pas de
paillettes, la rage, c'est pas mal ça.
Allez, vous pouvez avoir des fiertés.
Perdre aux émissions, c'est cool.
Nous, on est le collectif des collages féministes de Saint-Étienne. Alors, on fait des collages pour dénoncer toutes les sortes de domination du patriarcat dans la société, même un peu toutes les sortes de domination, aussi capitaliste ou coloniale. On colle sur plein de thématiques donc avec ces thèmes, mais surtout en fonction des personnes parfois présentes, en fonction de leur ethnicité, de leur revendication sexualitaire, enfin d'identité au niveau de leur sexualité, etc. Donc chacun, chacune essaye aussi parfois d'utiliser son expérience pour proposer des slogans. On a aussi déjà collé des témoignages. D'ailleurs, il y en a un qui s'était pas très bien passé, mais voilà. Et moi, ça fait, je ne sais plus, ça fait 2 ou 3 ans que je suis dans le collectif. Je suis un peu perdue dans l'espace-temps. Mais je suis en ce moment celle qui est là depuis le plus longtemps.
Alors, les collages, si je me souviens bien, je crois que c'est né en 2019 à Paris. C'était surtout pour dénoncer les féminicides à la base. Et donc ça s'est né à Paris, je crois, en 2019. Et après, ça s'est diffusé dans plusieurs villes. Maintenant, il y en a dans toutes les grandes villes et même les petites villes, en fait, il y en a partout. Et après, oui, il y a des spécificités. Il y a des groupes, des collectifs de collage qui sont plus ou moins intersectionnels. Donc il y a des groupes qui peuvent être transphobes ou abolitionnistes. Ça, ça existe. À Avignon, notamment, je sais qu'il y a un groupe comme ça. Et après, ça dépend, en fait, dans chaque ville, il y a ses spécificités. J'ai collé à Dijon, j'ai collé à Nantes, c'était pas du tout le même fonctionnement, à Strasbourg non plus. Et je dirais que le collectif de Saint-Étienne, il est plutôt... Enfin, il est carrément politisé, plutôt, je dirais, antifasciste. On l'exprime, c'est pas exprimé directement, mais dans ce qu'on colle, ça rejoint ça. Ça rejoint l'antifascisme. Et on ne fait pas que ça, on se rejoint pour d'autres choses, on fait d'autres actions, que ce soit direct ou indirect, mais en tout cas, on ne fait pas du collage, et ça, c'est pas non plus dans tous les collectifs.
La violence de l'État, comme preuve de sa faiblesse.
Là, sur le boulevard.
Ok, bon, je crois que la
réponse... Sur le boulevard, il est long.
On veut vivre. On est un collectif intersectionnel parce qu'on voilà, on lutte contre toutes les formes de domination et pas seulement certaines ou celles de femmes cis blanches, hétéros, qui pourraient voilà, être un peu plus lambda dans le féminisme. Donc on essaye voilà, d'être le plus déconstruit aussi possible, même si après, quand les gens arrivent, on est tous et toutes à des étapes... de déconstruction différente, mais les collages en tout cas sont un vrai, enfin dès que tu arrives dans le collectif, tu as une vraie déconstruction et souvent c'est comme je dirais, c'est un petit stage de vie très rapide parce qu'il y a des profils, il y a plein de profils différents et comme on se voit assez souvent et que des fois on devient très vite aussi amis avec certaines personnes, on se dirait qu'on se déconstruit très vite.
On a un groupe en mixité choisi. Donc ça veut dire que on a un collectif où il y a toutes sortes de personnes, enfin toutes personnes, sauf des mecs cis. Donc il y a des personnes transgenres, des personnes cisgenres, enfin des meufs cisgenres et des personnes non binaires.
Du coup, quand on a repris, enfin qu'on a essayé de faire une charte claire pour justement se positionner par rapport à Marguerite Stern et les collages. Féminicide de Paris, de partout, qui avait été lancé en 2019 ou 2018, je ne sais plus. Eh bien, nous, on a changé de nom. Du coup, maintenant, ça s'appelle Collage Féministe Saint-Étienne. C'est plus, enfin, pour nous, c'est plus inclusif parce qu'on ne colle pas uniquement sur les féminicides, même si ça reste un sujet encore important, pour que ce soit plus, voilà, plus inclusif et qu'on montre qu'on touche d'autres sphères que celle-ci et surtout qu'on se désolidarise complètement de Marguerite Stern, de ses propos transphobes, parfois racistes aussi, et qui peuvent être très problématiques parce qu'elle s'approprie aussi un peu les collages alors que c'est une forme de militantisme qui a toujours existé et même si elle a été une des premières à en faire, enfin nous en tout cas on ne veut pas y être... On veut pas y être, je sais pas comment dire, associé. Oui, voilà.
On aurait dû écrire la rage en rouge.
J'avoue. On aurait pu mettre des paillettes aussi.
Hein?
Alors, on soit obligé d'utiliser le collage parce que, pour plusieurs raisons, déjà, ça permet de se réapproprier l'espace public. Et surtout la nuit, quand on colle la nuit, ça permet aussi de se réapproprier l'espace public la nuit. Et qui plus est, en groupe de personnes sexisées. Et aussi parce qu'en fait, ça se voit. Enfin, c'est des messages qui se voient, qui sont temporaires, qu'on peut décoller facilement. Donc il y a moins de risques d'amende.
Ça, c'est un outil pratique parce que disons que la différence avec le tag, c'est que déjà, on a beaucoup moins de risques judiciaires. Il y a un peu un flou juridique dans la loi. Alors peut-être qu'ils l'ont amélioré depuis que les collages se sont mis en place. Mais en fait, disons que tu risques pas grand-chose si tu fais des collages. Tu peux risquer après des violences policières, autre chose, des gardes à vue, bon, ça, c'est autre chose. Mais en termes de la loi... t'as un flou juridique où tu peux aller de, je crois que c'est 69 euros ou 68 euros le collage, entre guillemets. Mais c'est très très rare qu'ils te mettent une amende pour ça. Et en fait, c'est vu comme la dégradation légère. Donc en fait, c'est beaucoup moins violent, ou ça peut être beaucoup moins problématique au niveau de la loi qu'un tag ou autre chose. Donc ça, je pense que c'est pour ça que c'est plus accessible et qu'il y a aussi beaucoup plus de personnes qui le font. Et moi, en tout cas, je trouve que le fait de mettre des feuilles, c'est quelque chose de collectif, parce qu'il faut le mettre la colle, il faut poser les feuilles, il faut réfléchir collectivement. Donc je trouve que c'est mieux que juste un tag où, par exemple, on est seul, si le tag est très politique aussi et sur d'autres endroits. Mais je trouve que le tag peut être un peu plus individualiste ou juste, peut-être il peut être pensé collectivement aussi. Mais les collages, voilà, c'est vraiment une organisation spécifique qu'il faut un minimum avoir. Donc pour moi, c'est un outil de lutte assez important.
Très haut, il va par plusieurs lignes. Genre violeur, hors de nos rues.
Moi, je suis pas très bien, là.
Vas-y, je cote.
Mais il n'y a personne qui recolle derrière moi.
Non.
Ce qu'on aime faire, alors ça, c'est un peu, ça dépend un peu de chaque personne, mais nous, comme on est un collectif, on aime bien se retrouver pour faire des sessions peinture, où une personne du collectif propose chez elle un lieu ou un autre lieu. On a déjà peint un peu dehors, mais bon. Entre le vent et les gens, c'est pas quelque chose qu'on a envie de faire forcément en public, mais on l'a déjà fait par exemple dans des endroits collectifs aussi, à la Gueule Noire, enfin à des endroits aussi plus autogérés. Et souvent, donc, on peint une dizaine de slogans, enfin, on se retrouve entre nous, souvent c'est un apéro, on discute et puis après on se fait une petite liste de slogans.
Chacun, chacune s'occupe d'un slogan qui soit qui le touche, qui elle la touche, soit qui elle a envie de peindre. Et des fois aussi, enfin tu vois, quand il y a une personne qui nous dit ouais, moi j'ai un slogan, j'ai trop envie de le coller, du coup on lui garde aussi dans le sac, parce qu'après du coup quand on a peint, on fait sécher, on trie tout ça, et en fait on se retrouve quand c'est possible pour aller coller nos slogans.
Et soit on prend des. Quand il y a de l'actualité, on écrit sur l'actualité. Et après, il y a des messages qui reviennent souvent, quoi. Des messages qu'on met tout le temps, le sexisme tue, antipatriarcat, des choses comme ça, quoi.
On en a plein, hein. Oh là là, ça
va, si tu veux. Vas-y, dis-nous tout.
Père de Rio d'émission.
Tu vois, c'est pas du tout.
L'État ne nous protège pas. Hétéro-overdose. Bravo les lesbiennes.
Cuir et fier.
Anonyme dans l'histoire, était une femme.
Confronte ton corps de l'heure.
Darmanin dégage.
Cannes déroule le tapis rouge pour les agresseurs.
Respecte-nous.
Violeur hors de nos rues.
Violence policière accablante.
Arrêtez de capitaliser sur nos luttes.
On veut pas bosser plus, on veut vivre mieux.
Merde, c'est quoi
la violence de l'État comme preuve de sa faiblesse, il est en intro,
ah ouais, okay.
Et il est énorme.
Ok. Mais bon.
Alors bah, il est petit.
On peut peut-être mettre hétéro. C'était quoi déjà?
Darmanin dégage, allez go.
Les mots viol, les mots inceste, je pense que ça violente pas mal de monde. Et du coup, on essaie de pas les coller sur des habitations de particuliers, plutôt sur des murs neutres, enfin si on peut appeler ça des murs neutres, mais pour pas qu'on se dise, enfin tu vois, si un ou une voisine descend et voit, je sais pas, violeur, on te voit sur son mur, et que, enfin je sais pas, la personne, ça peut lui renvoyer, je sais pas, soit des trucs horribles, soit des trucs, enfin je sais pas, ça peut être, on n'a pas envie de mettre personne, enfin personne, si. Plein de gens en porte-à-faux, mais pas forcément des personnes lambda qui n'ont rien demandé et qui sont tranquilles dans leur petite vie.
Dans mes expériences de collage, soit les personnes viennent nous demander pourquoi on colle ça, qu'est-ce que ça veut dire, mais ça peut être des questions bienveillantes. Et des fois, c'est des gens qui sont hyper énervés, qui veulent qu'on décolle, machin. Et puis des fois, c'est la police qui arrive. Et donc ça dépend, des fois ça se passe bien, c'est le contrôle d'identité, demande de décoller. Mais il y a des cas où il y a ces gardaves. Et il y a des les coloreuses de Montpellier, elles se sont faites foncé dessus par un mec en voiture. Et donc, il y a plusieurs couloureuses qui ont été blessées, qui sont à l'hôpital.
Mais pas par la police?
Non, par un mec lambda. Ouais. Et il y a un procès, alors je crois qu'il est passé, mais à Nantes, il y a des couloureuses qui ont été en procès. Et une autre ville encore, alors je sais, Strasbourg, je crois. Il y a eu un procès à Strasbourg aussi. Donc c'est pas, en fait, coller, c'est pas sans danger. Il y a toujours, quand tu veux intégrer le collectif, tu as toujours, une rencontre qui explique les risques que tu encours à coller dans la rue, parce qu'en fait, c'est illégal.
Il y a quelques semaines, apparemment, il y a quelqu'un qui a appelé la police pour nous dénoncer en disant qu'on collait des choses ou qu'on faisait des choses. Enfin, je sais pas trop ce qui a été dit. Et la police est arrivée. On était en centre-ville et avec deux fourgonnettes à nous coincer dans une rue. Et ça a été un peu violent parce qu'ils sont descendus à 10 ou 12 en appelant des renforts. Enfin, on avait l'impression d'avoir fait un crime alors qu'on collait juste des bouts de papier sur des murs, la plupart du temps, en plus abîmés ou abandonnés.
Quoi, IL sont arrivés en cow-boy, descendus, ni bonjour ni merde. Ben, tu sais, en gros, arrêtez-vous, qu'est-ce que vous faites? Vos pièces d'identité, s'il vous plaît, nanani, nanana, etc., etc. Une fois, on s'est fait emmerder, on avait collé ni Marine, ni Macron, on avait ni Zemmour, ni Le Pen, je sais plus ce qu'on avait mis. Ni Marine, ni Macron, ni patrie, ni patron. Non, il n'y avait pas. Zemmour crève, il est resté super longtemps à Tarentaise. Mais donc, ni Marine, ni Macron, ni patrie, ni patron, je sais plus, il y a un gars qui est venu le décoller et il était défoncé. Un très grand blond qui se croyait tout permis parce qu'on était 5 et le gars il est arrivé, il a tout décollé. On lui a dit mais qu'est-ce que tu fais en fait? Et après, je sais plus, il y en a une qui s'est interposée et qui lui a dit non mais en fait t'es défoncé là donc calme-toi. Et il s'est calmé parce qu'en fait il était un peu défoncé aussi. Et du coup on a recollé. Mais tu vois, il y a des trucs. Souvent c'est des gars qui peuvent être même tout seuls et qui se disent mais en fait elles sont 6, enfin elles sont 6, 5, 6, 7, mais en fait on s'en tape, moi je suis un gars, j'arrive, je fais ce que je veux en fait, tu vois. Du coup il y a un rapport de force dans la rue qui est quand même compliqué et qu'on cerne de plus en plus. J'ai intégré le collectif il y a 2 ans, ouais, 2 ans, tout juste 2 ans, en juin. En fait, avant, j'étais engagée plutôt dans le zéro déchet, enfin, dans une asso que je respecte toujours, mais pour moi, je trouvais ça un peu très bobo, très. Après, c'est toujours des causes qui m'intéressent, mais c'était plus là-dedans que j'avais envie de lutter. Et ça faisait longtemps sur Instagram que je voyais des collages super cool et super vénères. Et en fait, je crois que j'avais envie que ça bouge, tu vois, là, zéro déchet. Je leur disais, allez, mais on va jeter toutes les poubelles par terre et tout, que les gens, ils se rendent compte de ce que... Enfin, tu vois, j'avais envie d'action, en fait, d'aller dans la rue, de faire des trucs qui soient visibles, quoi. Parce que faire des ateliers tawashi, enfin, c'est bien. Non, mais tu vois, le dimanche matin, à T'as tout juste, où il y a des gens qui gagnent entre 3 et 4 000 euros. Alors, c'est très réducteur, ce que je dis, mais... Bref, du coup, j'avais envie de lutter autrement. Et donc, j'ai écrit sur Instagram aux personnes qui s'occupent d'Instagram des coloreuses. Et on s'est rencontrés, on a bu des coups. Et après, on est allé coller, après, on a remu des couilles, on est allé recoller, on a peint. Et ouais, on a créé des relations particulières aussi avec les personnes qui sont souvent là, qu'on retrouve souvent.
Moi, ça fait depuis, je dirais, septembre 2019 que je colle. Et je trouve que c'est une façon de s'intégrer dans une... Enfin, disons, je connaissais déjà la ville, mais en tout cas, pour s'intégrer dans un collectif féministe, c'est une bonne porte d'entrée, parce que ça nécessite pas... j'ai l'impression qu'on n'a pas le besoin de se sentir légitime ou de savoir un tas de choses sur le féminisme pour intégrer ces collectifs. Donc à Dijon, c'était le cas, et puis on était une belle bande de copines, du coup... C'est pour ça que j'ai commencé là-dedans, pour ensuite intégrer d'autres collectifs. Et à Nantes, c'était pareil. Saint-Étienne, c'était vraiment des villes dans lesquelles je venais d'arriver. Et en fait, intégrer les collages, c'était une façon d'intégrer le réseau féministe des villes, quoi.
Ah bah moi, je me sens bien. C'est une façon de militer où pour moi, personne ne se met en avant. C'est quelque chose de collectif. Normalement, on est anonyme et personne n'est censé savoir qui est derrière les collages. Donc, ça peut être un peu n'importe qui. Ça peut être ta mère, ta sœur, ta pote, ton pote aussi d'enfance que tu n'as pas revu depuis 10 ans. Il s'est passé des choses dans sa vie et elle a besoin de revendiquer. Donc, moi, j'aime bien. Ouais. Et en plus, on rencontre des gens de tout type. Vraiment, des gens qui parfois te ressemblent un peu, mais des fois pas du tout. Et en fait, on a cette chose en commun qui est la lutte contre le patriarcat et cette sororité, cette adelphité entre nous parfois.
On peut
en faire. Je suis en train de faire du collage.
Oh non, pas sur une autre fille.
Il y a deux feuilles. Oh là là.
Tu veux pas essayer de le coller là.
Ah non, mais one time.
Parce que là, on va rien comprendre. Déjà, personne ne voit.
Mais arrête, si. Putain, mais un sub qui m'a invité.
J'aime pas ça. J'ai fait vraiment pour toi. On l'a collé au moins 10 fois la
piste. Lorsqu'on colle et lorsqu'on est en groupe de personnes sexisées dans la rue et dans la nuit, c'est trop cool, quoi. On passe vraiment des bons moments, c'est hyper... on se sent hyper puissante, ça change. Moi, c'est vraiment des moments qui me portent et qui me donnent beaucoup de force, quoi. Du coup, oui, sur le moment, ça me donne beaucoup d'énergie et beaucoup de force. Et du coup, oui, après, ça, cette force-là, elle reste, quoi.
Soy Teresa, soy Ingrid, soy Fabiola, soy Teresa, soy la mujer, na 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 na.
Elle fait féminicide.
Que tiemble el estado, los cielos, las calles, que tiemblen los jueces y los judiciales. Hoy a las mujeres nos quitan la calma, nos sembraron miedo. Nos crecieron alas, a cada minuto de cada semana nos roban amigas, nos matan hermanas, destrozan sus cuerpos, los desaparecen. No olvides sus nombres, por favor, señor presidente. Por todas las compas luchando en Reforma, por todas las morras peleando en Sonora, por las comandantas luchando por Chiapas.
Quand on est plusieurs, on n'y pense même pas, en fait, ça c'est sûr. Ou alors on se dit qu'en fait on est neutre et que s'il y en a un ou une qui se fait agresser, bah, on sait qu'on sera là pour les autres. Donc c'est assez rassurant. Mais j'ai déjà entendu des chouchous dans le collectif qui étaient très stressés de sortir la nuit et que des fois même on ramène en voiture après parce que voilà... ça leur a fait du bien, en tout cas ça a changé, ça leur a permis de ressortir seule la nuit aussi, qu'elle ou y'elle n'arrivait pas avant.
Je sais pas. Il y en avait un peu en haut, mais peut-être pas en bas.
Pourquoi dans le sang?
Bah, il y a preuve de sa faiblesse encore. Hein. Il va falloir y aller. Hein.
Ça boit.
Ça fait penser qu'on a mis de la neige dans le...
Dans ah ouais, t'étais
dans...
là?
Ouais, dans le seau, là.
Ah oui, c'était drôle.
Ah oui, la neige.
Trop froid.
Ah oui.
On souffle ici pour qu'elle fonde.
On essaie d'inverser le cours des choses. On essaie de renverser la balance parce qu'il y a trop d'injustice. Il y en aura peut-être toujours, mais en tout cas, on essaie de faire ce qu'on peut pour... parce que nous, on n'en peut plus et du coup, on colle sur les murs ce qu'on a à dire par rapport à ça.
En fait, j'ai l'impression de construire quelque chose en dehors de la société, quoi. Il n'y a pas de hiérarchie, on se rencontre... Il y en a qui sont plus ou moins disponibles. Enfin, il y a une certaine liberté aussi de militantisme. Il y a une forme de solidarité. Et moi, je me trouve très libre là-dessus, sur cette façon de militer, en tout cas.
Ça me donne de la force, en fait. Enfin, vraiment, les gens, on est là. Enfin, en fait, il y a des personnes qui ont des blessures béantes, mais qui ont une force franchement extraordinaire. Et moi, ça me nourrit grave.
À trois, c'est dur hein, quand t'as une main.
Des fois, quand on prend des risques, en fait, ça fait monter un truc. Enfin, quand on l'a fait, on se sent encore plus puissante, quoi. Personnellement, j'aimerais bien passer un niveau au-dessus des fois. Je sais pas, faire d'autres choses. Bah, on a fait une banderole qu'on n'a pas encore affichée, mais ouais, monter sur le crassier, je sais pas, faire des trucs un peu plus d'envergure, faire des trucs, tu vois, pourquoi pas aller coller sur la mairie, ça on s'est jamais trop posé, mais après on prend davantage de risques, donc c'est aussi s'engager sur d'autres choses, quoi, sur d'autres plans. On verra.
Merci aux coloreuses du collectif Collage Féministe de Saint-Étienne pour leur temps et pour leur accueil. Merci à Radio Dio et tout particulièrement à Loïc. Dans ce documentaire, vous avez pu entendre les chansons Giant et Elude de l'artiste Label, ainsi que la chanson Canción Sin Miedo de l'artiste Vivir Quintana. C'était un documentaire de Marie Bobichon pour Radio Dio.
Radio Dio 89.5 FM.
Aura des pâquerettes.
Aura des pâquerettes, c'est l'émission qui prend de la hauteur dans notre région Auvergne-Rhône-Alpes. Une émission produite par Radio Dio ce mois de février 2024. Troisième et dernière proposition, et vous allez retrouver Loïc d'ici un instant, qui est allé à la rencontre de Tashka, cet artiste qui nous a présenté son troisième et dernier album il y a quelques jours, l'album Faire des figures, disponible sur le label stéphanois Le Cri du Charbon.
L'ultime message qui passera mes lèvres se scellera dans un silence qui appelle à la trêve. À quand ce soupir qui caressera mes côtes, qui me fera sentir chez moi dans la maison des autres? Fil conducteur, c'est... se noue à ma cheville et me pend par les pieds comme à la boucherie. Tu vois, mon âme est entre deux chaises. Elle ne vole plus, s'écorche contre les falaises, amputée par des enfants passage qui se sont amusés à la garder dans une cage. Si je
auditeurs et auditrices, j'ai le plaisir de recevoir Tashka dans nos studios. Salut à toi.
Salut.
Alors on vient d'écouter un extrait de ton troisième album, Faire des figures, qui est sorti en fin d'octobre dernier sur le label Le Cri du Charbon, troisième album donc, qui fait suite à Balbutiard et à Volcan, et qui fait suite aussi à ton premier EP, c'était en 2013, Silent Opera, 10 ans donc d'anniversaire discographique. Bon anniversaire à toi.
Joyeux anniversaire. Merci.
Et oui, tout à fait, tu peux souffler. Ce qui m'amenait à une première question, est-ce que tu arrives à voir comment a évolué Tashka? Qu'est-ce que tu en vois en tout cas sur ces 10 années?
Oui, je vois complètement que ça a changé. Et ça a changé, je pense, un peu comme j'ai changé entre il y a 10 ans et aujourd'hui. Pour moi, la musique, c'est un peu un reflet de qui on est à un moment précis. Et quand j'entends Balbutiard, qui était le premier album, je me reconnais vraiment très fort à cette époque-là, où j'étais un peu plus jeune, un peu plus naïve, un peu plus... mais sans jugement, hein. Juste voilà, quelqu'un d'autre avec d'autres goûts musicaux. Et j'ai écouté plein de choses entre il y a 10 ans et aujourd'hui, et je sens que ça a nourri aussi pas mal ce nouvel album, Faire des figures.
Quand on compose et qu'on écrit seul, comme toi, c'est vrai que t'as l'impression que c'est des polaroïdes, un petit peu, c'est complètement boomer ce que je viens de dire, en tout cas des photos, des espèces d'instantanés comme ça que t'as fait à chaque fois.
Ouais, moi, en tout cas, oui, chaque chanson est vraiment attachée à quelque chose de très concret, même si les textes, des fois, sont plus évasifs ou, on va dire, plus figurés. Après, moi, vraiment, il y a chaque chanson est vraiment... j'ai une image très forte, j'ai un Polaroid dans la tête. Je me permets de le reprendre, parce que c'est vrai. Que ce soit inspiré d'un
c'est
film...
C'est plus flagrant qu'un selfie, quand même, comme expression.
Oui, parce qu'on est, on se regarde pas soi-même. On prend une photo d'autre chose, et il y a beaucoup des chansons qui sont des photos d'autre chose, et pas forcément que de moi. Dans Balbutiard, il y avait beaucoup d'inspiration de livres, de films que j'avais vus ou lus, enfin, voilà. Et dans Volcan aussi, d'ailleurs. Donc, vraiment, oui, c'est des époques pour moi, ouais.
Par rapport à cette évolution, moi j'ai l'impression d'un corps qui s'est un peu étiré sur ce nouvel album, qui tire les bras, qui l'étend et qui essaye de
de prendre un peu plus de place. Comment est-ce que tu as travaillé à appréhender la composition et les arrangements de faire des figures ?
Bah, déjà, j'étais pas du tout dans le même état d'esprit. C'est vrai que Balbutiard et Volcan, je pense, c'était encore dans quelque chose d'assez intérieur, assez introspectif, en mode petite boîte. Mini boîte dans laquelle on peut faire des choses. Pour faire des figures, pour le recontextualiser, je l'ai en partie beaucoup écrit à l'époque du confinement, où on était tous et toutes enfermés dans des boîtes, justement, et je me suis dit, mais là, je peux pas me faire ça à moi-même, je peux pas faire ça aux gens non plus, que de faire de la musique aussi introspective à un moment où en fait, on a vraiment tous envie de sortir, quoi.
De soi-même,
et
ouais.
De soi-même, d'aller dehors. S'il y a un morceau qui devait un peu résumer l'envie de faire des figures, c'est dehors, je pense. C'est vraiment sortir pour faire des choses. Et dans le sens de faire des figures, il y avait aussi ce truc de corporalité, de rythme aussi, de ramener ça dans ce troisième album. De faire de la musique sur laquelle on peut aussi se faire du bien physiquement, mais dans quelque chose d'un peu plus un peu plus détendu, quoi. Enfin voilà, un peu plus rythmé. Moi j'avais vraiment envie de ça pour cet album là.
C'est pas forcément évident, et c'est même assez rare de réussir à avoir une impression d'ensemble d'un album qu'on vient de sortir et de réussir à le résumer comme ça. Pour toi, ça fait un tout, alors que j'imagine que les chansons sont quand même, c'est un agrégat un peu composite, un disque aussi.
Ouais, après j'ai vu que cet album est très éclectique et que j'ai vraiment pris beaucoup beaucoup de temps pour réfléchir à qu'est-ce que c'était qui faisait le lien entre tous ces morceaux ultra différents. Donc et aussi de comment le nommer. Enfin, c'est quoi le lien entre tous ces morceaux. Donc en vrai j'ai pas mal cogité dessus. Parce que ça m'importait aussi de pouvoir parler de ma musique et de pas débarquer en disant je fais un peu ci, je fais un peu ça. Pour moi, c'est important de savoir où est la cohérence dans tout ça, même si au moment où je composais les morceaux, je me posais pas du tout cette question. Mais après, en tout cas, avoir terminé l'album, l'avoir mis en boîte, et puis même au moment du mixage aussi, comment est-ce qu'on mixe les morceaux, comment est-ce qu'on crée une unité dans le mix entre toutes ces chansons. Enfin, c'était important pour moi de voir le fil conducteur.
Et alors au niveau des textes, sans que ce soit un concept album, ça veut dire que tu serais capable d'exprimer ce que tu veux dire dans ce disque?
Dans chaque chanson ?
Bah non, justement, un peu dans l'ensemble. Tu parlais de l'écriture au confinement, mais finalement, qu'est-ce que tu veux livrer aux auditeuristes en le sortant maintenant et en le chantant même en live ?
Ben, dans les textes, en tout cas, il y a, je pense, beaucoup d'affirmations à des endroits différents. On pourra en parler plus tard sur les autres, sur chaque morceau. Mais s'affirmer en tant que femme, affirmer aussi des changements du corps, affirmer juste s'affirmer tout court, quoi. Pas avoir peur d'exister. Clairement, ça, c'est, je pense que ça pourrait bien résumer l'album, et qui sort aussi à un moment où la musique et le rapport à la musique est différent de celui qu'on avait quand Volcan est sorti en 2015, par exemple, ou encore. Encore pire pour Balbutiard il y a 10 ans. Un rapport plus, peut-être, je dirais, on est dans un monde où la musique qui mainstream est plus lissée, on va dire. Moi, je trouve, en tout cas. Mmh. On a plus l'habitude d'entendre certaines choses, certains grooves, certaines basses. Et ça, c'est juste dû à l'uniformisation des moyens de composer. Enfin, voilà, c'est normal, on utilise beaucoup d'électronique et tout ça. Et du coup, moi, de sortir ça à ce moment-là, en ce moment, bah, c'est plus une affirmation de « oui, il y a des choses différentes qui peuvent exister, et c'est cool aussi. Ça peut exister en parallèle d'eux. »
C'est curieux que tu dises ça, parce que je trouve qu'il reste quand même dans ton écriture, même si l'écriture et les mots sont simples et clairs, une impression quand même de petite cachette, de choses pas forcément évidentes à appréhender. Je me demandais s'il n'y avait pas de la pudeur ou de la malice un petit peu à louvoyer quand même et à pas offrir tout de suite.
Oui, oui, il y a les deux. Il y a de la pudeur et de la malice. C'est clairement, c'est très bien résumé. Après, Enfin, complètement. Il y a vraiment de la pudeur, mais il y a aussi vraiment de la malice. Mais je pense aussi, il y a aussi moi ce plaisir que j'ai aussi en tant qu'auditoriste, enfin, de chansons qui ne sont pas les miennes. Moi, j'aime bien pouvoir m'approprier les textes. J'aime bien pouvoir me raconter que cette chanson, peut-être elle parle de ça, peut-être elle parle de ça, et me raconter une histoire qui est complètement, peut-être pas du tout celle qui était racontée à la base de l'artiste, mais en tout cas moi la coller à ce que j'ai vécu moi. Et j'aime bien aussi l'idée de pouvoir offrir ça à des gens qui l'écoutent et peut-être fonctionnent de la même manière que moi, j'espère, parce que je trouve que ça donne une vie beaucoup plus grande à un texte, s'il peut vivre de plein de manières différentes chez plein de différentes personnes. Enfin.
Mais il y a un endroit effectivement où je trouve l'écriture est plus claire, c'est quand tu abordes un thème qui est assez récurrent chez toi, l'idée de féminisme, de féminité, où là il y a quelque chose de l'ordre d'une force plus calme, mais plus explicite qui arrive, non ?
Ouais, oui, bah il y a des textes sur lesquels j'ai moins envie qu'il y ait la place à l'interprétation. Clairement, et le féminisme et l'expérience de femme, clairement, sont des sujets sur lesquels j'ai envie d'être comprise. Ça n'empêche pas de mettre du soin dans les formes, de laisser quelques doutes planer sur le sens ou créer des jeux de mots. Mais après, j'ai quand même envie d'être. C'est un des sujets sur lesquels j'ai envie d'être comprise le plus possible. Ouais.
On va illustrer ça par un autre extrait musical. J'avais envie de te demander de nous aider à déballer un petit peu le paquet cadeau que j'ai choisi, le titre d'introduction de l'album. Est-ce que tu peux en dire quelques mots en parlant avant qu'on les écoute en chantant ?
Ouais. Cadeau, c'est un condensé du regard des autres, du rapport qu'on a au regard des autres et surtout aussi sur... comment les hommes en majorité, hein, qui naissent quand même avec ce privilège les hommes cis blancs, en fait, en vrai, nommons-les, mais dans le fait de graviter dans l'univers sans trop jamais se poser de questions, enfin, en tout cas, douter beaucoup moins de leur légitimité dans le monde. Et du coup, cette chanson Cadeau, c'était vraiment un peu un moment où je me disais, tiens, mais moi, je suis là à douter toute seule dans mon coin, tout le temps de tout ce que je fais. Enfin, j'en ai marre. Donc, c'était vraiment, pour moi, elle parle vraiment de ça, quoi. C'est ce regard, c'est ces autres qui donnent l'impression qu'ils doutent pas du tout, alors qu'en fait, sûrement que si, et en fait, sûrement, ils doutent autant que nous, mais juste, ils ne le laissent pas du tout paraître. Voilà.
Merci à toi pour nous avoir enlevé les doutes sur l'interprétation du texte. On écoute ça tout de suite. Merci Tashka.
Si les armures sont lourdes, la peau dure l'est tout autant. Je m'interroge parfois sur mon épiderme à moi. Tantôt ferme, tantôt frêle. Tantôt solide, tantôt liquide. Fuir l'inertie me paralyse. Pourtant souvent je cours après ma vie. Peu m'importe les héros, leurs histoires édulcorées. Quand ils pleurent ils tournent le dos pour ne pas être. Tantôt courageux, tantôt chétif, tantôt ambitieux, tantôt timide, ils sont pareils, ils jouent la comédie, ils sont vaillants, à force qu'on leur dise, se tenir droit, qu'il faut y croire, qu'il faut tenir, qu'il faut grandir, boire à la source, jusqu'à plus soif, pas s'excuser, de briller fort et d'éblouir. Les rétines, les yeux sur soi, le grand cadeau des autres à soi, le grand fardeau, le grand cadeau, le grand cadeau, 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 cadeau.
C'était le rendez-vous mensuel Aura des Pâquerettes sur les radios réunies au sein de la Fédération régionale Aura FM. Plus d'infos, actus et autres podcasts sur le site www.aurafm.org.